15. Encore la réciprocité. Monsieur de Saint-Cricq disait « Sommes-nous sûrs que l'étranger nous fera autant d'achats que de ventes ?» Monsieur de Dombasle, « Quel motif avons-nous de croire que les producteurs anglais viendront chercher chez nous, plutôt que chez toute autre nation du globe, les produits dont ils pourront avoir besoin, et des produits pour une valeur équivalente à leurs exportations en France ?» J'admire comme les hommes qui se disent pratiques avant tout raisonnent en dehors de toute pratique. Dans la pratique, se fait-il un échange sur 100, sur 1000, sur 10 000 peut-être, qui soit un troc direct de produit contre produit? Depuis qu'il y a des monnaies au monde, jamais aucun cultivateur s'est-il dit « Je ne veux acheter des souliers, des chapeaux, des conseils, des leçons » au cordonnier, au chapelier, à l'avocat, au professeur qui m'achètera du blé tout juste pour une valeur équivalente. Et pourquoi les nations s'imposeraient-elles cette gêne? Comment se passent les choses? Supposons un peuple privé de relations extérieures. Un homme a produit du blé, il le verse dans la circulation nationale, au plus haut cours qu'il peut trouver. Et il reçoit en échange quoi? Des écus, c'est-à-dire des mandats, des bons fractionnables à l'infini, au moyen desquels il lui sera loisible de retirer aussi de la circulation nationale, quand il le jugera à propos, et jusqu'à du concurrence, des objets dont il aura besoin ou envie. En définitive, à la fin de l'opération, il aura retiré de la masse justement l'équivalent de ce qu'il y a versé, et en valeur, sa consommation égalera exactement sa production. Si les échanges de cette nation avec le dehors sont libres, ce n'est plus dans la circulation nationale, mais dans la circulation générale, que chacun verse ses produits et puis ses consommations. Il n'a point à se préoccuper si ce qu'il livre à cette circulation générale est acheté par un compatriote ou un étranger, si les bons qu'il reçoit lui viennent d'un Français ou d'un Anglais, si les objets contre lesquels il échange ensuite ses bons à mesure de ses besoins ont été fabriqués en deçà ou au-delà du Rhin ou des Pyrénées. Toujours est-il qu'il y a, pour chaque individu, balance exacte entre ce qu'il verse et ce qu'il puise dans de grands réservoirs communs. Et si cela est vrai de chaque individu, cela est vrai de la nation en masse. La seule différence entre les deux cas, c'est que dans le dernier, chacun est en face d'un marché plus étendu pour ses ventes et ses achats, et a par conséquent plus de chances de bien faire les uns et les autres. On fait cette objection. Si tout le monde se ligue pour ne pas retirer de la circulation les produits d'un individu déterminé, il ne pourra rien retirer à son tour de la masse. Il en est de même d'un peuple. Réponse. Si ce peuple ne peut rien retirer de la masse, il n'y versera rien non plus. Il travaillera pour lui-même. Il sera contraint de se soumettre à ce que vous voulez lui imposer d'avance, à savoir l'isolement. Et ce sera l'idéal du régime prohibitif. N'est-il pas plaisant que vous lui infligiez d'ores et déjà ce régime dans la crainte qu'il ne court la chance d'y arriver un jour sans vous ?